avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille.
Dans le numéro de janvier-février du journal La Brique, on peut lire un dossier, une enquête sur la thématique du sport. Le sport à la moulinette de la critique sociale. On en parle avec Nito, l'un des rédacteurs du journal La Brique.
C'était un peu l'angle d'attaque de l'enquête. C'était de voir comment le sport peut servir de pour les urbanistes de cheval de Troie. Par exemple, on voit avec les JO à Londres pour construire des choses gigantesques, défoncer des quartiers entiers et accélérer les programmes de reconfiguration urbaine. Pour les entrepreneurs de toutes les couleurs, ça permet de faire pas mal de sous. Voilà. Pour le sport, c'est aussi le moyen de mettre en avant les capacités des hommes sur les femmes et de sous-entendre que, enfin voilà, que le sport s'est construit historiquement comme une mise en valeur de la force masculine et des attributs. Donc voilà, donc, alors que ce soit l'enquête ou la soirée, aura pour but de voir un petit peu, de revenir un petit peu sur le sport en tant qu'objet social et aussi de l'ancrer dans l'actualité. C'est-à-dire qu'en août prochain, on a les JO à Londres, sur lesquels la région Nord-Pas-de-Calais s'est aussi positionnée. Alors c'est ce que disait un petit peu l'enquête aussi. Il y a un article dans l'enquête qui s'appelle « Le gâteau des JO » et qui montre comment... la région Nord-Pas-de-Calais, en fait, le soir, ou alors c'est entre Paris et Londres, hein, si on se rappelle un peu bien, les villes finalistes qui étaient candidates à l'accueil de ces JO. Le soir où Londres a été retenue, à Arras, à l'hôtel de ville d'Arras, on a hissé les couleurs pavillon britannique pour dire qu'en fait, on était bien contents parce qu'en fait, pour la région Nord-Pas-de-Calais, cette proximité avec Londres permet aussi de choper un petit peu, enfin d'espérer en tout cas des retombées financières autour de cette grande manifestation mondiale qui va accaparer tous les médias pendant deux semaines. Et donc, voilà, donc la région Nord-Pas-de-Calais qui a construit à grands frais, alors c'est plus de 1 million d'euros, je crois, si on... Non, plus de 100 millions d'euros, pardon, si on additionne toutes les sommes des infrastructures qui ont été construites. Alors par exemple, à Boulogne-sur-Mer, on a refait le port, on a fait une rampe d'Aveyron au Touquet, à Berck-sur-Mer, on a construit aussi de quoi remettre en forme les sportifs. Il y a un grand gymnase à Arc qui est présenté comme étant le fleuron de la salle d'entraînement pour les gymnastes. Alors le but, c'est donc d'attirer les sportifs et délégations qui vont venir en Angleterre en été prochain, et aussi d'attirer les médias un petit peu... qui a un petit peu une retombée médiatique pour la région et indirectement aussi ramener après des touristes, donc de l'argent pour le commerce touristique dans la région. Donc voilà, donc là je suis allé un petit peu j'ai fait un peu un prix de groupe, mais dans l'enquête sur le sport, donc il y a un petit peu, il y a aussi un article sur le Grand Stade de Lille, c'est la grosse actualité dans la métropole depuis que sa construction, ça va faire 2 ans maintenant. D'ailleurs, ils ont annoncé qu'il y aurait des retards sur le Grand Stade. C'est vraiment un fiasco de A à Z. Et donc l'article sur le Grand Stade, qui est un peu l'épine dorsale de l'enquête, revenait un peu sur le coût de cette construction et interrogeait son utilité pour la communauté urbaine de Lille, avec donc... L'objectif de l'article, ce qu'il montre assez bien l'article, c'était de voir qu'en fait le Grand Stade de Lille, c'est surtout un cadeau à Eiffage et au LOSC, qui vont être les seuls bénéficiaires des retombées économiques d'un projet qui va endetter la communauté urbaine de Lille pour les 30 prochaines années. Donc on est allé interviewer une association de riverains qui s'appelle les Dessous du Grand Stade, qui ont fait pas mal de recours juridiques contre le permis de construire, qui ont mis pas mal de droits, qui ont mis le doigt sur pas mal d'irrégularités dans tout ce qui était administratif, judiciaire, qui avait pour but de faire capoter le projet. Bon, c'était un peu David contre Goliath, hein, les riverains en question, ils ont perdu, quoi. On le voit comme une verrue, le Grand Stade est en train de proliférer là à Villeneuve-d'Ascq. Et donc voilà, donc le Grand Stade de Lille, pour le rappeler, donc c'est un loyer que va payer pendant 30 ans la communauté urbaine de Lille à Eiffage, et tous les soirs de match, toutes les retombées économiques, ce sera dans les caisses du LOSC directement, qui lui ne met pas un sou dans le projet. Voilà, et les soirs où ce sera plutôt des concerts, c'est Eiffage, donc l'entreprise de BTP là, dont on a vu aussi qu'une des têtes était mouillée dans l'affaire de Carlton, qui prendra lui les sous des soirs de spectacle. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur le stade, mais en gros c'est ça nous qu'on a essayé de montrer, quoi.
À la télé, il y a les jeux de la solidarité et amitié. Ils ont tous l'air contents. Des milliers de volontaires. Mais surtout, 2,5 milliards de gens qui les regardent. 2,5 milliards de téléspectateurs.
Un spectacle de plus à mon palmarès. Je suis spectateur, amateur. Y a-t-il une place pour moi sur le podium ? c'est moi, je veux une médaille qui se chope des hémorroïdes. C'est moi, je veux une médaille.
Qui c'est qui dit que c'est beau, que c'est beau? C'est moi,
merci, je veux deux médailles.
Dans le dossier, il y avait aussi une idée intéressante, je crois que c'était au sujet de Lens, comme quoi ce club avait été créé, était monté à un moment pour finalement calmer les ardeurs des mouvements sociaux ouvriers sur place. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Oui, carrément. Donc, dans l'enquête, j'ai aussi un article sur les supporters, sur le monde des supporters à Lille et à Lens. Donc on allait rencontrer des supporters de foot qui eux-mêmes se définissent comme des gens par ailleurs d'extrême gauche, de gauche, anticapitaliste, et donc qui a priori ont une conscience politique. Donc c'est aussi pour désinguer un peu le mythe du supporter qui est juste un peu une grosse brute, voilà, qui est fan de rassemblement un peu grégaire comme ça. Donc voilà, c'était plus pour interroger quelle est la position du supporter, voilà, et ces supporters-là qui eux-mêmes replaçaient, comme tu le dis, le sport et la construction historique du sport comme un moyen de canalisation finalement. Alors à Lens, le Racing Club de Lens, c'est l'archétype du paternalisme patronal à la fin du 19e et du début du 20e siècle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les propriétaires de la mine qui construisent un club de toutes pièces pour que le week-end, les ouvriers aillent dépenser leurs maigres payes dans les loisirs proposés par le patronat minier, quoi. Donc voilà, c'est carrément ça, quoi. C'est un peu l'idée du sport comme opium ou comme moyen d'acheter la paix sociale, de déchaîner les foules, sachant que l'infrastructure même d'un stade de foot, c'est quelque chose d'hyper contrôlé, quoi. Donc c'est à la fois un endroit pour un défouloir, quoi. Mais c'est à la fois aussi l'enceinte sportive, c'est aussi un endroit où tout est sous contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi dans les enceintes sportives qu'on a expérimenté les premiers dispositifs de surveillance, de reconnaissance par vidéosurveillance, de mesures administratives d'éloignement des stades. Donc voilà. Et ouais, donc cette idée, comme tu le dis, de dire que historiquement, le foot, le sport, c'est un moyen de calmer et c'est un moyen de calmer les velléités de rébellion et de protestation sociale dans leur Pas-de-Calais comme ailleurs, quoi. C'est sur quoi débouche l'article sur les supporters? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, dans la construction historique du football, on arrive aujourd'hui à un moment un peu carrefour où, en fait, la tradition de dire que les supporters pourraient avoir un poids dans le club, en fait, on passe en fait de... Alors, à tort, enfin, avec... pour le meilleur comme pour le pire, en fait, les supporters et les mouvements ultra, qui sont des mouvements qui se revendiquent historiquement comme indépendants des clubs, c'est-à-dire qu'en fait les ultras, ils se pensent quand même un peu comme des syndicats. Donc on va être indépendant de la direction des clubs pour pouvoir protester contre les politiques des clubs quand elles ne nous vont pas, voilà. Donc ça, c'est un modèle surtout valable dans l'Europe du Sud. Donc en Espagne, c'est les socios, hein, avec à Madrid et à Barcelone, les supporters, ils ont un poids énorme dans la politique du club. Et donc en fait, ce truc-là, c'est en train d'être cassé par vraiment une marchandisation à outrance du spectacle sportif, où en fait les supporters, ils pèsent de moins en moins en fait dans le club financièrement, et ils ont moins en moins de poids, parce qu'en fait ce qui compte maintenant, c'est les droits télé, c'est voilà. Alors on a le supporter de Lens en question, qui lui était au cœur du mouvement ultra à Lens, disait que ce contre quoi protestait sa tribune de supporters, c'était de dire que les matchs de foot le vendredi soir ou le lundi soir, justement, alors que l'ouvrier à qui est censé s'adresser le spectacle sportif travaille le vendredi ou le lundi et ne peut donc plus se rendre au stade, bah ce modèle-là, en fait, c'est vraiment le truc construit de toutes pièces par la télé, parce qu'en fait les droits à l'image sont plus importants qu'en fait le fait que le stade soit plein et soit garni de supporters. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y avait un petit peu, aujourd'hui on a un peu un tournant, et sociologiquement c'est intéressant de constater que les ultras, qui sont par ailleurs aussi diabolisés, donc on l'a vu dire, soit c'est des gros bofs, soit c'est des, enfin voilà, soit ils sont tous racistes, soit ils sont tous, enfin voilà. Ça, c'est aussi un moyen aussi de nettoyer un petit peu les tribunes et de faire du spectacle sportif uniquement un spectacle télévisuel et respectable, où le bon père de famille qui gagne bien sa croûte puisse se rendre le week-end dans une enceinte sécurisée, machin, machin. Donc voilà, encore plus, maintenant, on avait déjà la pacification du corps social, maintenant on a même, y compris la pacification des tribunes elles-mêmes, avec, donc, on est en train de un peu faire la guerre au mouvement supporter historique et un peu traditionnel qui garnissait les tribunes, en tout cas dans les clubs un peu populaires comme à Lens ou à Marseille ou à Saint-Etienne. Donc voilà.
Nito, l'un des rédacteurs du journal La Brique, journal d'enquête et d'infos de Lille et d'ailleurs. Le dossier sur la thématique du sport est à lire dans le numéro de janvier-février. La Brique s'est distribuée dans tous les bons kiosques à journaux. Il y a aussi des points de vente, des dealers de briques moins officiels un peu partout dans la région. Des ventes à la criée sont aussi organisées sur quelques marchés, notamment à Lille. A noter que ce dossier sur le sport a aussi fait l'objet d'une soirée débat, c'était le 15 février dernier au cinéma L'Univers à Lille-Moulin. Le film qui était projeté, c'était La solitude du coureur de fond, un film britannique des années 60, signé Tony Richardson. Ça parle du sport comme outil de contrôle social. Puis il y avait aussi des invités lors de cette soirée, Fabien Lebrun et Ronan David, qui sont animateurs de la revue Illusio et co-auteurs du livre Foot Afrique, Coupe du Monde, Capitalisme et Néocolonialisme. C'est paru en 2010 aux éditions L'Échappée. Vous retrouverez ces références sur le site internet de La Brique, labrique.net.
Go home, watch the football game with my friends, yeah. She's so mad, so I won't be there. She says, oh, but I do not care about the thing she says, 'cause what?